Dimanche dernier, nous avions dans l'Évangile un enseignement sur le pur et l'impur, où Jésus s'adressait successivement aux spécialistes de la question, les pharisiens et les scribes, puis à la foule, et enfin à ses disciples en privé. Et vous aviez peut-être remarqué, sur la feuille de messe, dans la numérotation des versets qui précèdent l'Évangile, que la liturgie avait sauté une dizaine de versets. Une dizaine de versets pour faire court, dont un refrain de Jésus adapté à ce que nous venons d'entendre, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». C'est un refrain qu'on trouve régulièrement chez les prophètes dans tout l'Ancien Testament, en particulier de la part du prophète Isaïe. « Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. » Et puis ensuite, que s'est-il passé dans la suite de l'Évangile ? Nous n'avons pas la suite immédiate. Jésus s'est rendu hors du territoire d'Israël, en territoire païen, dans la région de Tyr, où il a guéri la fille d'une syrophénicienne. Après une courte joute verbale, ceux qui s'intéressent pourront reprendre l'Évangile dans le texte. Et puis nous avons cette guérison d'un sourd qui avait du mal à parler. Dans l'Ancien Testament, l'hébreu biblique ne fait pas de différence entre un sourd et un muet. Et c'est normal, à l'époque, ceux qui avaient ce handicap étaient atteints de surdité dès l'enfance. Il était très difficile de leur apprendre à parler. Et un des grands textes de l'Ancien Testament, le chapitre 19 du Lévitique, celui qui déjà prône l'amour du prochain, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », comporte une prescription qu'on peut traduire aussi bien par « Tu n'insulteras pas un sourd, tu n'insulteras pas un sourd parce que même si lui ne t'entend pas, en fait, l'injure, elle te dégrade toi-même. » C'est ça le problème de l'insulte. C'est pas tellement pour la personne, bien sûr, à qui c'est adressé, mais c'est celui qui la prononce. Même s'il n'entend pas, tu n'insulteras pas un sourd, pour beaucoup de personnes, c'est aggravé sur le volant de leur voiture. Et puis, on peut le traduire également par « tu n'insulteras pas un muet », qui a également sa logique. « Tu n'insulteras pas un muet », ce serait déloyal puisqu'il ne peut pas te répondre. Le sourd a du mal à parler. Et c'est particulièrement vrai sur le plan symbolique. Cela s'applique évidemment à notre relation à Dieu. Si nous n'écoutons pas sa parole, comment faisons-nous pour prier ? Comment faisons-nous pour prier pour nous adresser à lui ? Comment pouvons-nous le connaître si nous ne l'écoutons pas ? Comment faire pour prier si nous ne partons pas de la parole de Dieu ? Pendant des années, je me suis disputé avec un vieil oncle que j'aimais beaucoup, que je voyais souvent, et qui était devenu, c'est le propre terme, c'est lui-même qui disait, était devenu sourdingue avec l'âge. Et il en souffrait beaucoup parce qu'il était très sociable, et il en souffrait surtout, vous le savez, surtout au repas. C'est surtout au repas quand on ne peut plus suivre les conversations. C'était extrêmement difficile. C'était un homme qui était ouvertement athée. Excusez-moi, mais il y a une garderie pour les petits, sinon on ne va pas pouvoir s'entendre. C'était un homme qui était athée, mais très intéressé par les questions religieuses. Et son dada, qui revenait régulièrement, son dada, c'était qu'il fallait remplir les églises avec des messes, et il disait des messes comme à Harlem. Il était passé là-bas, il avait vu des messes chantant, dansant, comme on peut l'imaginer. Il a dit, c'est ça qu'il faut faire. Si c'était aussi gai, aussi joyeux, tout le monde viendrait, vos églises seraient pleines. Et je lui répondais que le problème de nos messes, c'est pas qu'elles soient pas assez dansantes, pas assez joyeuses. Le problème de nos messes, c'est que très souvent, elles ne sont pas assez recueillies. Et je le comprends parfaitement, c'est très difficile de passer de la vie courante, d'interrompre nos activités. Le changement par rapport à ce que nous vivons dans le monde est extrêmement important. Et vous le savez très bien, c'est la raison pour laquelle je fais des messes brèves. Je suis un prêtre compact, je le dis souvent. Rarement plus de 3/4 d'heure, 50 minutes, parce que notre capacité d'attention, de concentration est limitée. Ma première proposition pour cette année, disons que c'est une suggestion, mais c'est une proposition quand même, c'est de prendre soin du quart d'heure avant et du quart d'heure après. C'est vrai pour beaucoup d'activités, mais c'est vrai en particulier de la messe. Le quart d'heure avant, pour pas que l'entrée soit trop brutale, et le quart d'heure après, pour pouvoir continuer à vivre avec le Seigneur. Et par exemple, de façon très concrète, ça peut être en éteignant votre portable en partant de chez vous. Idéalement, venir sans. Peut-être que le pire ennemi de la prière aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Parce que ce qui nous rapproche le plus, c'est souvent aussi ce qui nous éloigne, ce qui nous sépare le plus. C'est vrai de la technologie, c'est vrai de l'argent, c'est vrai de la famille, c'est vrai de la foi. Et s'agissant du portable, je sais les objections habituelles. Vous savez, on dit toujours que l'alcoolique jure ses grands dieux qu'il arrête quand il veut. Deuxième proposition pour cette année, celle-là est autrement plus sérieuse. C'est votre mission que je vous confie aujourd'hui. Votre mission sera cette année d'amener un non-baptisé à Jésus. C'est ça l'église missionnaire. D'amener un non-baptisé à Jésus, pas uniquement à la messe pour remplir les églises comme le voulait mon oncle, mais plutôt comme le montre l'évangile. De l'amener à Jésus pour que Jésus le prenne avec lui à l'écart, le sorte du bruit, du quotidien, de la foule, pour pouvoir ouvrir son cœur, le guérir, pour le faire entrer dans l'intimité de son amour. Alors évidemment, cela suppose que nous ayons nous-mêmes cette capacité, cette habitude à aller à l'écart avec Jésus. Les fiancés qui viennent me voir, c'est la saison, c'est en ce moment qu'ils arrivent pour préparer leur mariage de l'année prochaine. Beaucoup d'entre eux n'ont aucune pratique religieuse. Et soit au moment où nous faisons connaissance, parfois à l'approche de la célébration, je leur demande parfois s'ils ont parmi leurs amis des catholiques fidèles, pratiquants, qui puissent les aider, les accompagner. Aucun. Ouch ! C'est souvent la réponse. Mais le pire si je puis dire, c'est que quand je demande à nombre de paroissiens ou à nombre de catholiques s'ils ont parmi leurs amis des non-baptisés, même réponse, aucun. Comment on va faire ? Comment on va faire si chacun reste dans l'entre-soi ? Troisième proposition pour cette année, qui dépasse la sidération des témoins de cette guérison dans l'Évangile. Extrêmement frappé, dit le texte. Ma troisième proposition, c'est la conséquence de la première, c'est-à-dire gagner un peu de liberté à l'égard des écrans. Et c'est surtout la condition de la deuxième, pouvoir mettre en relation un non-croyant avec Jésus. Cette troisième proposition, cette proposition principale pour l'année, c'est d'essayer de recevoir, voire d'imiter le trait le plus sympathique de tant de saints, la bonne humeur. La bonne humeur. C'était la qualité première d'origine de saint François d'Assise, sa gaieté, dès sa jeunesse, dès son enfance. C'est ce qui rend la vie ensemble, que ce soit en famille ou entre amis, c'est ce qui fait le bonheur de se retrouver ensemble, de retrouver des personnes de bonne humeur. C'est comme ça que l'Église aussi est un signe de contradiction avec le monde, par la joie, la bonne humeur. Vous savez, ce mois de septembre, on l'appelle le temps pour la création, entre le 1er septembre, journée de prière pour la sauvegarde de l'environnement, jusqu'à la fête de saint François d'Assise, jusqu'au 4 octobre. Eh bien, voilà ce qu'il faut cultiver, l'écologie chrétienne de la bonne humeur. Il y a un psaume qui dit « Qui sème dans les larmes, récolte dans la joie ». Vous imaginez, « Qui sème dans la joie ». Waouh ! Ephata ! Il ouvre son cœur, il ouvre le monde, il fait resplendir la lumière du Seigneur. Mais pourquoi saint François d'Assise était-il dans la joie ? Parce qu'il avait une foi profonde en la providence de Dieu. Voilà ce qui sera le thème, la ligne directrice de cette année. La foi en la providence divine. Voyez ces trois propositions simples. Soignez le quart d'heure avant et le quart d'heure après. Amenez un incroyant à Jésus. Et puis, puiser notre bonne humeur dans la foi en la providence de Dieu, le mystère de Dieu qui vient à notre secours. Commence, mon enfant, la providence viendra à ton secours.